Désolé pour ceux qui attendaient Luc, mais il a eu un empêchement. C'est une épreuve difficile pour moi. Devant de l'eau qui refroidit, l'amour consiste à être bref. Alors je vais essayer. Ça ne vous surprendra pas, j'ai choisi le sujet d'actualité par excellence. Et donc je vais faire quelques remarques sur le baptême, que j'espère les plus bref possible. Évidemment, je n'ai pas la prétention ce matin d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, mais je pense simplement qu'il faut avoir des choses présentes à l'esprit quand on est face à un événement comme celui-là. Alors, je vais commencer par une citation, c'est celle de la première lettre de Pierre, au chapitre 3 et au verset 21. Tout ça, c'est des textes que tout le monde connaît bien, hein, mais peu importe. Donc, Pierre parle du déluge, et il dit « C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, qui, parti pour le ciel, est à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. » Ça n'a l'air de rien, non, ce sont quand même des phrases fortes, mais qui méritent qu'on s'y arrête. Alors, déjà, au niveau de la méthodologie, Pierre commence par dire ce que le baptême n'est pas. Et il dit, ce n'est pas assimilable à ce qu'on appelait à l'époque les ablutions rituelles. Ça n'est pas fait pour laver. Alors, vous me direz, ça, c'est peut-être pas la peine qu'on s'y attarde, puisque de nos jours, on fait bien la différence entre la douche et le baptême. Donc, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. C'est vrai que, à l'époque, les règles d'hygiène étaient sacralisées. C'est-à-dire que la loi, tous ceux qui ont lu, se sont donné la peine de lire la loi, savent que il y a une... dans la loi, donner à Moïse une bonne partie de règles qui sont des règles d'hygiène. Les ablutions, enfin, ça existait partout, dans quasiment tous les cultes de l'Antiquité, on ritualisait l'accès à la propreté, si je puis dire. Et on spiritualisait ça. C'est plus le cas de nos jours aujourd'hui. Donc, on peut dire étape suivante. Moi, je m'arrête sur la démarche qui consiste à dire d'abord ce que le baptême n'est pas, avant que de dire ce qu'il est. Parce que dans ce texte, il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui attire notre attention, à nous, c'est que par deux fois, il est écrit que le baptême sauve. C'était l'image du baptême qui maintenant vous sauve. C'est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Donc pour en terminer avec l'histoire de l'hygiène, juste une citation dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, et au verset 22, pour qu'on fasse bien la différence entre les deux, mais encore une fois, ça n'est plus d'actualité, il est dit « Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Pour bien montrer que ce n'est pas la même chose. Il y a d'une part le corps et d'autre part un problème de conscience. Comme c'est le même mot qui est employé par Pierre, qui dit c'est un engagement de conscience. Bon, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Je veux d'abord lever l'ambiguïté puisque c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à faire croire, enfin qu'on réussit encore aujourd'hui à faire croire à la moitié de la chrétienté, c'est-à-dire que un, c'est le baptême qui sauve, et deux, c'est le baptême qui fait entrer dans l'Église. Alors, effectivement, si c'est le cas, si c'est comme ça qu'il faut comprendre, il faut être baptisé le plus tôt possible. Donc, dès qu'on sort de l'œuf, si vraiment c'est le rite du baptême qui sauve, vive le baptême des enfants. Et je suis obligé de constater qu'il y a des gens qui croient que si un nouveau-né a été baptisé et qu'il meurt prématurément, il va au ciel, alors que s'il n'a pas été baptisé, il n'y va pas. C'est ce qu'on tire, enfin, c'est ce que, notamment dans l'Église catholique, on tire de textes comme celui-là, et d'un autre texte bien connu, qui est dans Marc, au chapitre 16, verset 15. « Allez par le monde entier et proclamez l'Évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc c'est sur ces deux textes-là principalement qu'on s'appuie pour dire, ben, voyez, ou bien on est baptisé et donc on est sauvé, ou on n'est pas baptisé et on ne l'est pas. Bon. Moi j'observe déjà que dans ce texte-là, la fin de la phrase, c'est pas « celui qui ne croira pas ou qui ne sera pas baptisé sera condamné », c'est « celui qui ne croira pas sera condamné ». Alors, je ne vais pas vous infliger, parce que nous, les évangéliques, on connaît tout ça par cœur, mais j'attire simplement votre attention sur le fait que isoler un verset de son contexte et de tout le reste du message biblique, ça permet de lui faire dire à peu près ce qu'on veut. C'est toujours très facile de prendre un verset et de dire, et de construire une théologie sur ce verset, en disant, bah voyez, moi j'ai mon verset qui me dit que, en faisant abstraction de tous les autres versets. Alors, tous les autres versets, je vais pas vous les infliger, mais je vais simplement faire allusion à ce qui a été étudié tout récemment, c'est-à-dire qu'on était, comme vous le savez, dans les lettres de Jean. Et par exemple, Jean est tout à fait catégorique. Alors attendez, je vais vous trouver ça. est tout à fait catégorique pour dire « Je vous ai écrit tout ça » et il l'a développé et on l'a étudié ensemble « pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez la foi au nom du Fils de Dieu. » Et on sait bien, nous, que dans Paul, il y a des pages entières qui démontre avec la rigueur intellectuelle de Paul que ce qui permet d'accéder au salut, c'est la foi et rien que la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et donc, nous, notre conviction, c'est que si on est baptisé, c'est pas pour être sauvé, c'est pour montrer qu'on l'est. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc du coup, pour nous, ça n'a pas de sens de baptiser les enfants. Et pour nous, la chronologie entre croire et être baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé, ça a une valeur qui, si on inverse les choses, c'est-à-dire que si on se précipite pour baptiser quelqu'un sans s'assurer qu'il a la foi, du coup, le baptême perd son sens. Alors, je ne vais pas développer les raisons pour lesquelles l'Église s'est fourvoyée, enfin, en tout cas une bonne partie de l'Église s'est fourvoyée dans... Mais c'est tellement tentant. C'est tellement tentant pour une institution, l'Église malheureusement est aussi devenue une institution, c'est tellement tentant pour une institution de se donner le pouvoir d'appartenance ou de non-appartenance. Parce que si le baptême, c'est la porte du salut, et non pas la foi, alors effectivement, du coup, c'est l'Église qui décide qui est et qui n'est pas sauvé. Or, on sait bien que, notamment la formule utilisée par le livre des Actes, c'est le Seigneur qui, chaque jour, intégrait dans la communauté ceux qui trouvaient le salut. C'est à la fin du chapitre 2 des Actes. Dès le début, les choses sont bien claires, ça n'est pas l'Église qui décide qui est sauvé et qui ne l'est pas, et ça n'est pas le baptême. Alors, attendez, je vais trouver ça. Il louait et trouvait un bon accueil. Hein. Le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. C'est son affaire à lui, c'est son pouvoir à lui de décider qui est sauvé et qui ne l'est pas. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, la première des choses à savoir, c'est pas quel sens ça a, c'est quel sens ça n'a pas. On n'accomplit pas un rite qui va faire passer des gens du statut de perdu au statut de sauvé. Ça, c'est Dieu qui en décide. Alors, si ça n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'engagement d'une bonne conscience? Facile à dire. La question dans le baptême, c'est la question de l'identification. Je vais lire des textes parce que c'est inévitable, mais je vais lire des textes qu'on connaît par cœur, mais qui sont essentiels sur ce sujet. Donc d'abord dans Romains au chapitre 6 et verset 3, à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenez bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus, car la mort n'a plus sur lui aucune emprise. Je vais tout de suite lire l'autre texte de référence en la matière que vous connaissez également. C'est donc c'est la lettre aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 11, qui dit à peu près la même chose, mais dans d'autres termes. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien et qui vous a dépouillé du corps charnel. Telle est la circoncision du Christ, ensevelie avec lui dans le baptême. Avec lui encore, vous avez été ressuscité puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Tous les termes qui sont employés là sont des termes d'assimilation, d'identification. Alors, il commence par dire, effectivement, la circoncision, la vraie circoncision, ça n'est pas l'affaire des hommes, c'est Dieu qui finalement circoncit, au sens spirituel du terme. Et donc, nous, ce qu'on a à prendre en compte, c'est que c'est la même chose pour le baptême. Le vrai baptême, nous, on utilise un symbole, mais le vrai baptême, ça n'est pas les hommes qui l'administrent, mais c'est Dieu. Le fait de me prendre avec lui dans sa mort et donc dans sa résurrection, ça, il n'y a que lui qui en a le pouvoir. Et de la même manière que la circoncision administrée par les hommes était l'image de ce que Dieu faisait en déclarant quelqu'un membre de son peuple, au sens de l'Ancienne Alliance, de la même manière, le baptême est une façon de montrer humainement ce que Jésus fait et ce que Jésus est le seul à pouvoir faire, c'est-à-dire emmener quelqu'un dans sa mort et dans sa résurrection. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire du baptême une néo-circoncision. C'est pour ça que Paul dira, bon, maintenant la circoncision, on s'en fout. Alors, je ne vais pas dire, je ne suis pas venu ce matin pour dire le baptême, on s'en fout. Mais je suis venu pour dire, ça ne peut être que l'image de ce que Jésus lui-même fait, c'est-à-dire assimiler quelqu'un à sa mort et à sa résurrection. Alors, ça veut dire quoi ultimement ? Ça veut dire, et là, c'est pas seulement le baptême de deux d'entre nous qui est d'actualité ce matin, c'est aussi l'occasion pour chacun des baptisés de se remettre ça en mémoire. C'est que cette assimilation au Christ, je n'ai pas le droit de l'affirmer avec des mots, je n'ai que le droit de la manifester par le baptême, c'est-à-dire par le baptême, je montre que je suis conscient de l'offre que Dieu me fait de m'assimiler à la mort et à la résurrection de son Fils, et j'accepte, et c'est pour ça qu'il est question d'engagement de conscience. Parce que, à chacun des textes que j'ai lus, qui sont les textes de référence, si vous lisez la suite, alors je vais quand même le faire très brièvement pour les besoins de la démonstration, si je puis dire, dans Romains, Paul dit ensuite, à partir du verset 12, se contente pas de dire « Dieu vous a assimilé à son Fils dans sa mort et dans sa résurrection ». Il dit ensuite « Donc, que le péché ne règne plus dans votre corps mortel, puisqu'il est mort celui-là, pour vous faire obéir à ses convoitises, ne mettez plus vos membres au service du péché comme arme de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme arme de la justice, mettez-vous au service de Dieu, car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Il utilise là le même terme, c'est-à-dire, quand il disait tout à l'heure, Jésus ressuscité, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, il dit avec le même verbe, ressuscité avec Christ, le péché n'a plus aucun pouvoir sur vous. Donc, ce que je n'ai pas le droit de dire, parce que ça n'est pas le mode de communication que Dieu a choisi, je n'ai pas le droit de proclamer, parce que facile de parler, hein, j'ai été assimilé à la mort et à la résurrection du Christ, j'ai deux façons de le montrer. D'abord par le baptême, je montre en étant baptisé, et c'est pour ça que le geste lui-même symbolise l'ensevelissement. Pour ça que trois gouttes sur la tête, pas me battre avec tout le monde sur le plan théologique, mais trois gouttes sur la tête, ça n'a pas de sens pour le baptême. Le baptême, bon, d'abord parce que le mot même en grec suggère l'immersion, mais aussi parce que on est là pour symboliser une mort et une résurrection. Donc il faut au moins être mis dans la position d'un mort pour pouvoir se relever. Mais je n'ai le droit d'évoquer ça que d'une part par le symbole qu'est le baptême, et d'autre part et surtout par la vie que je mène. Et encore une fois, pas par des paroles. Est-ce que l'être nouveau qui est sorti de l'eau de mon baptême permet de reconnaître les caractères du Christ ou pas? Si la réponse est clairement non, alors le baptême n'a pas de sens, n'a pas de valeur. L'autre texte est encore plus éloquent à cet égard. Donc Colossiens, j'ai lu le chapitre 2, et donc il dit, mais tirez-en les conséquences, donc montrez-le par le baptême, mais puisque vous êtes mort et ressuscité, alors il dit d'abord, puisque vous êtes mort avec Christ, et donc soustrait aux éléments du monde, alors là, il ne commence pas par dire, vous êtes libre par rapport au péché, il dit, vous êtes libre par rapport à la loi. Puisque vous êtes mort et ressuscité avec Christ, il n'y a plus de règles. Pourquoi vous pliez à des règles, comme si votre vie dépendait encore du monde, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, tout ça pour des choses qui se décomposent, mais voilà bien le commandement et la doctrine des hommes, ils ont beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotion ascèse, ils sont dénués de toute valeur et ne servent qu'à contenter la chair. Je suis libre par rapport à la loi. Et donc, il continue, bon ça c'était parce que vous êtes mort, mais parce que vous êtes ressuscité, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu, c'est en haut qu'est votre but et non pas sur la terre, vous êtes mort en effet et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, vous aussi vous paraîtrez en pleine gloire. Et donc, après il fait le catalogue, faites donc mourir ce qui appartient à la terre, la débauche, l'impureté, etc. Autrement dit, encore une fois, mon identification à Jésus, elle se fait visuellement vis-à-vis de la communauté, mais je vais dire pourquoi dans un instant, et ça sera mon dernier propos, et elle se fait quotidiennement par ma façon d'être, si cette façon d'être reflète la personnalité du Christ, alors tout ça a un sens. Si ma façon d'être, de me comporter, de parler, de réagir, ne reflète pas la personnalité de Jésus, alors je peux toujours dire que je suis mort et ressuscité avec lui, c'est du vent. Et je peux toujours dire que j'ai symbolisé ça par le baptême, alors, puisque j'ai parlé du vent, je vais parler de l'eau, ça n'est que de l'eau. Et donc, la deuxième chose que je veux signaler, mais de manière beaucoup plus rapide, c'est que, bon, là, on dit aujourd'hui, on baptise deux personnes, donc c'est, d'ailleurs, c'est, j'aurai pas le temps, mais ça permet aussi d'expliquer pourquoi on peut pas se baptiser soi-même. Pourquoi est-ce que on, parce que se doucher tout seul, on y arrive. Bon. Donc se plonger dans de l'eau et ressortir, on y arrive aussi tout seul si on veut. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui nous... Pourquoi est-ce que ça n'a de sens que si quelqu'un d'autre nous baptise? Ben, parce que ça n'est pas que l'affaire de celui qui va dans l'eau et qui ressort. C'est que la première partie de mon explication, enfin, du développement de Paul et des autres, c'est de dire, bon, vous êtes assimilé, vous êtes identifié au Christ. Ça veut dire que Jésus, pour moi qui suis baptisé, ça n'est plus tout à fait un autre. Ça va jusque-là. Et donc, si pour moi, il n'est pas tout à fait un autre au sens de l'altérité, lui c'est moi, mais je suis en lui, il y a des développements considérables de Paul là-dessus, mais ça veut dire, et ça aussi Paul le développe considérablement, nous ne sommes pas des autres. Alors, les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que nous qui sommes baptisés, nous ne sommes pas dans une altérité totale les uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'il développe l'image du corps en disant, nous qui sommes baptisés, nous formons un seul corps avec... Alors, je vais lire parce que... C'est pour ça que ce qui se passe ce matin, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde parce que... Moi, j'ai été un jour de ma vie greffé dans un corps auquel aujourd'hui sont greffés d'autres organes. Et donc, je ne peux pas ne pas me sentir concerné. À partir de maintenant, ils ne sont plus tout à fait des autres pour nous. Ils sont aussi nous-mêmes. Alors, vous connaissez, bon, je vais vite, mais je sais, à partir de maintenant, ça refroidit, donc on se manie. J'en ai plus pour longtemps. Quelques textes simplement, bien connus. Galates 3, 26. Vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Vous qui avez été baptisés, à chaque fois il est question du baptême dans ces textes-là. Vous qui avez été baptisés en Christ, alors là, il utilise un terme vestimentaire, hein, vous avez, effectivement, c'est très maladroit au niveau de la formulation, mais la véritable traduction, c'est vous avez enfilé Christ, au sens, alors là, c'est traduit revêtu, au sens où on met un vêtement. Il n'y a donc plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez à Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse, vous êtes des héritiers. Ça ne veut pas dire que, parce que ça se saurait, on cesse d'être un homme ou une femme. Ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être un Français ou un Iranien. Ça veut dire que, devant Dieu, tout ça s'efface pour une identification qui fait que Dieu nous regarde ensemble comme étant un. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent il y a une prière de Jésus que Dieu n'a pas exaucée, c'est qu'il soit un. La preuve, c'est que, regardez, le nombre d'églises, le nombre de confessions, le nombre... Non, c'est pas... Dieu, j'imagine, moi j'ai du mal à imaginer une prière de Jésus qui n'aurait pas été exaucée. Qu'il soit un, on est un, au sens où, certes, quand il me regarde, il voit un homme blanc, machin, etc., ça n'enlève rien à mon identité d'humain, mais ça gomme, en revanche, toutes les différences qu'il peut y avoir entre nous, puisque nous sommes une seule personne en lui. Alors ça nous regarde tous, ce qui se passe ce matin. Parce que pour eux, c'est cet engagement de conscience en disant « je m'engage par ce symbole » à ne pas dire avec des mots que, comme dirait Paul, « ça n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi », ça, j'ai pas le droit de le dire, j'ai l'obligation de le montrer. Donc, il y a de leur part cet engagement de conscience, mais il y a de notre part cet engagement, sinon on n'a rien à faire là, il y a de notre part, un engagement, à partir de maintenant, de ne plus les considérer comme des autres. Ça veut dire que s'ils souffrent, vous connaissez les textes, s'ils souffrent, on va le souffrir avec eux. S'ils pleurent, on va le pleurer avec eux. S'ils se réjouissent, on va se réjouir avec eux. Comme on le fait, comme on est censé le faire les uns pour les autres, chacun de ceux qui, étant baptisés, ne font plus qu'un. Alors, brièvement, donc, dans une illustration dans la lettre aux Corinthiens, mais tout ça vous le connaissez par cœur, 1 Corinthiens 12, bon, c'est à peine besoin de le lire ce texte tellement il est connu, le corps est un et pourtant il y a plusieurs membres, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est de même du Christ, car nous tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit, avec un seul corps, les Juifs et les Grecs, les esclaves et les hommes libres, nous avons tous été abreuvés par un seul esprit, le corps en effet ne se compose pas d'un seul membre, etc. À chaque fois qu'il parle du baptême, c'est pour dire ça. C'est pour dire un seul corps, tout simplement. Pourquoi ? Bah parce qu'une seule tête, un seul esprit. Le corps, c'est l'Église, la tête, c'est le Christ, et l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Donc, sauf à prétendre fabriquer un monstre, avec une seule tête et un seul esprit, pour que ce soit harmonieux, il faut qu'il y ait en dessous un seul corps. Je dis bien en dessous, pas au même niveau. Et il dira la même chose, c'est toujours Paul, hein, aux Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, et j'ai fini, je vous assure. Éphésiens au chapitre 4, il y a un seul corps, un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Ce baptême, c'est notre baptême. Il n'y en a qu'un seul. Nous prenons par leur baptême, l'engagement de ne plus les considérer comme des autres. Quand les choses sont vues du point de vue de Dieu, qui, on le sait, ne voit pas les choses comme nous, lui, il dit, il ne dit pas « chaque membre de l'Église a été baptisé », il dit « l'Église a été baptisée ». Celle qui sera ultimement l'épouse, donc là c'est pareil, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, forcément. On n'imagine pas Dieu polygame. Et donc, il dit, à propos des maris, mais ça ne fait pas de mal de l'entendre, « Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Oui, je sais, je suis loin du compte. Hein? Mais ce n'est pas le sujet. « Il a voulu la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et ça par la parole, il a voulu se la présenter à lui-même, splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable, et il l'a lavée au sens où il s'est identifié à elle, ou plus exactement, il l'a identifiée à lui. Donc, c'est ce matin une manière pour eux, mais aussi pour nous, de dire, voilà, on s'engage en conscience, d'abord à renouveler notre engagement, nous qui avons été baptisés aussi, c'est-à-dire témoigner de la vie de Christ en nous. Ultimement, c'est ce que Paul peut affirmer, moi je suis à des années-lumière de ça, mais être capable de dire, non seulement imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ, mais ça n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit à travers moi. Bon. La question n'est pas de savoir si j'ai atteint le but, la question est de savoir si en conscience je suis engagé sur ce chemin-là ou pas. Et puis, le deuxième engagement, c'est effectivement que dans le « un » que nous formons, ben, il y a aujourd'hui deux organes de plus, et ça c'est que du bonheur.